Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et avec moi, Guy Barrette.
Hey, bonne année, mon cher Mario!
Oui, bonne année à toi aussi. Oui,
bonne année 2007. Oui. Ça fait combien d'années là qu'on...
On a commencé en 2004. Donc, 2004. Là, on est dans notre 13e année.
OK.
Ça va vite, hein?
ça va très vite, oui.
Moi, ce qui me fait toujours rire, c'est que des fois, tu sais, maintenant, c'est assez facile à faire un podcast. Puis
ouais, mais ça dure pas longtemps, hein, souvent.
Ouais, c'est la difficulté, c'est ça, c'est de poursuivre puis de régulièrement publier des émissions. Mais quand on explique aux gens comment c'était difficile en 2004-2005, juste acheter de la bande passante. Tu sais, quand tu disais, ah, j'ai besoin de pouvoir héberger des centaines de milliers de mégabytes, à l'époque, là, c'était, oh, sors ton portefeuille.
C'est mon petit enfant, là, dans mon temps, quand ouais. On publiait un podcast, là.
Moi, j'ai connu ça, les centrales avec des gros ordinateurs, là.
Il fallait mettre du charbon dans la fournaise.
Donc, on est de retour des fêtes. Passez un bon temps des fêtes, hein?
Oh oui, oh oui. Une petite semaine tranquille à la maison, là, ça fait du bien.
Moi, hey, oui. Vas-y donc.
Oui. Je voulais parler de DevTeach.
Oui, c'est vrai.
Oui, DevTeach, c'est la conférence qui va avoir lieu à Montréal la première semaine de juillet. Et cette année, le thème, c'est le développement web puis les produits open source. Mm-hmm. Donc, c'est pas seulement les technologies Microsoft. Donc, auparavant, DevTeach était vraiment centré sur les technologies Microsoft, ce que serveur, .NET, Visual Studio. Mais cette année, là, c'est vraiment open source puis développement web en général.
Donc, même du côté cloud, vous avez parlé de l'offre de Google, ouais, d'Amazon.
Amazon, donc, c'est ça.
Finalement, DevTeach est un peu comme Microsoft. Il élargit ses horizons pour...
Absolument. Et l'appel aux conférenciers est ouvert présentement jusqu'au 29 janvier 2017. Donc, si vous utilisez des technologies, soit open source, dans le développement web, ça vous tente d'en parler devant dans une conférence. Donc, l'appel aux conférenciers est ouvert. Donc, on vous invite à soumettre vos idées de session.
Tout à fait. On va mettre, nous, le lien sur notre page pour...
Ouais.
Vous dirigez vers la page de mandat d'appel aux conférenciers.
Absolument.
Aujourd'hui avec nous, Philippe Artaud.
Bonjour.
Salut Philippe, ça va?
Bonjour Guy, bonjour Mario.
Ouais. Philippe, que j'avais rencontré brièvement il y a un an ou deux à la conférence Kung Fu,
ouais.
Ici à Montréal. Puis j'ai eu le bonheur il y a quoi, quelques semaines, de recevoir un email de toi juste pour vous dire, pour que nos auditeurs qui disent ah, mais comment on fait pour participer à un podcast? C'est pas compliqué, tu nous envoies un petit email en disant hey, il y a un sujet moi qui me passionne, j'aimerais s'en parler. Puis il y a des fortes chances qu'on soit très réceptif. C'est ce qui est arrivé à Philippe.
Oui, en fait, j'ai appris l'existence du podcast au souper des conférenciers de Kung Fu l'édition de l'année dernière. Fait que c'est là que je t'ai vu pour la première fois.
Ouais. Ouais. Puis essentiellement, ben j'imagine t'écouter quelques-unes de nos émissions.
Oui.
Si t'es un auditeur typique, là, l'auditeur typique, nous autres, on s'est rendu compte de ça. Ils viennent choisir les émissions. Hein?
Ben
c'est, tu peux t'abonner, mais même si t'es abonné, souvent tu vas dire ah non, ça m'intéresse pas, tu sautes l'émission. Mais nous, on voit là, typiquement, les gens retournent dans le passé, puis là, ils choisissent une dizaine de podcasts parmi tous ceux qu'on a publiés, ceux qu'ils trouvent intéressants. Donc, j'imagine que tu as fait un parcours un peu semblable.
Ben, je sais pas si vous allez voir mes écoutes. Moi, je passe par Google Play. Fait que je sais pas s'ils mettent en cache les feeds ou... Mais, parce que je ne télécharge pas directement du blog, mais oui, j'ai également regardé les derniers.
C'est sûr que quand on passe par un autre feed qui, lui, l'a caché, nous, on va voir un seul qui est la première fois, mais on verra pas les autres.
Ouais.
C'est d'ailleurs la magie de tout ce qui est l'Internet, hein, c'est que les mesures qu'on prend sont jamais vraiment exactes, parce que tu sais pas vraiment... Quand on dit, nous, on a peut-être 1 000, 1 500, certaines émissions, il y a 2 000 auditeurs, mais c'est vraiment 2 000, ça peut être facilement répliqué, donc
on sait pas.
Donc, Philippe, ton métier à la base, c'est informaticien.
Oui.
On peut décrire ça comme ça, hein?
L'informaticien, c'est large un petit peu, ça.
Mais on s'entend, t'es du côté développement, pas du côté infrastructure. Oui, non?
En général, oui.
Oui. Est-ce qu'on pourrait te dire que t'es un expert en sécurité? C'est-tu trop fort ou...
C'est moi, ce que mon titre dit.
Ah oui? Oui. Puis donc, puis bon, ton travail journalier, tu travailles chez Go Secure.
Oui.
Ça fait quelques années que t'es là ou...
Depuis début 2016, en fait.
Okay, donc c'est nouveau.
Donc oui, tout juste un an.
Puis Go Secure, ils font quoi dans la vie?
C'est des services en sécurité, donc c'est leur spécialité, là. C'est on fait des services test d'intrusion, revue de code. Sinon, il y a un groupe architecture, plus revue infrastructure, comme tu mentionnais. Sinon, service de surveillance, donc mise en place d'appliance de sécurité, mais avec un surveillancier. Mm-hmm. Il est rattaché à ça. Donc, vous allez pas entendre parler de GoSecure potentiellement. Vous l'avez peut-être pas entendu avant, mais t'sais, les banques ou d'autres compagnies qui ont besoin de sécurité, eux vont utiliser nos services pour différentes activités de sécurité.
Puis toi, tu fais des mandats chez des clients. Puis
Depuis que je suis chez GoSecure, c'est purement en recherche. Donc,
ah oui, de tout donc, côté.
Je vois à l'occasion, par exemple, appuyer une équipe qui est en test d'intrusion, s'ils bloquent sur quelque chose, des fois ils ont des mandats de quelques jours seulement. Ils n'ont pas le temps de démarrer une recherche sur quelque chose qu'ils trouvent intéressant, qui voudrait la peine d'être creusé. Fait que ils nous donnent ça dans notre cours. Des fois, on réussit à même leur donner quelque chose avant la fin du test. Fait que on est quand même pas en appui.
C'est intéressant parce que au niveau de la sécurité, là, c'est toujours le jeu du chat et la souris. Là, donc, il y a tout un élément de recherche là-dedans sans cesse. Là. C'est sans cesse la recherche.
Ouais, moi, on est trois dans notre équipe de recherche. Moi, ma spécialité, c'est vraiment plus tout ce qui est sécurité applicative. Donc, un de ces composants-là, c'est l'analyse statique. Là. Donc, je me spécialise, mais évidemment, la sécurité, là, c'est il y a autant la portion malware, le shell malveillant, il y a d'autres facettes de la sécurité.
Ça, tu parles d'analyse statique parce que le but d'aujourd'hui, le podcast, on va parler beaucoup d'analyse statique à l'aide de la plateforme Roseline. Moi, je suis juste curieux. Comment on en vient à pouvoir développer assez d'expertise en sécurité pour premièrement qu'elle soit reconnue parce qu'il y a pas tu sais il y a pas on peut pas dire ah je suis allé à l'université puis j'ai pris un diplôme en sécurité, ça n'existe pas ça vraiment. On fait quoi? On fait premièrement t'as quoi, un diplôme d'informaticien en programmation?
Personnellement, j'ai un baccalauréat en génie logiciel.
OK.
Mais c'est possible d'avoir
tu
une technique. Oui.
À l'ETS.
Mais sinon, c'est possible de faire, par exemple, une technique en informatique de gestion ou même en réseau. Puis,
mais on apprend à travers nos expériences de travail.
Oui. Mais en fond, la sécurité, c'est pas si, c'est pas si sorcier que ça. Non. C'est comme un peu les performances. On peut se spécialiser en performance ou en haute disponibilité. Donc, moi, je viens d'un background qui est plus une branche en développement. Donc, j'ai étudié toujours avec en tête que j'étais pour développer des applications. Puis la sécurité, ça a toujours été un intérêt que j'ai gardé, que j'ai grandi, fait grandir. Toujours dans un contexte web la plupart du temps. Et puis, j'en suis venu après ça être recruté pour faire des tests d'intrusion et revues de code en sécurité. Fait que là, je me suis spécialisé un peu plus. Puis là, je suis tombé en recherche.
C'est intéressant parce que tu avais un intérêt pour la sécurité, puis t'as trouvé des employeurs là qui où t'as pu t'épanouir là, dans ce domaine-là. Des fois, c'est ça qui est pas évident. Des fois,
mais j'imagine quand même par les soirs, t'as fait des lectures, puis
tout à fait.
Été chercher des logiciels pour expérimenter. Là.
Oui, à Montréal, s'il y a des auditeurs là qui sont curieux. Si vous voulez avoir l'expérience pratique en sécurité, il y a Montréac, qui est un événement mensuel où c'est 3 heures où les gens se réunissent, ils font des petits problèmes de sécurité où l'objectif, c'est d'arriver à solutionner un problème de sécurité.
Est-ce que c'est un groupe comme à travers Meetup ou...
Non, c'est...
C'est un groupe un peu comme Meetup.
Il y a le mailing list, mais c'est on n'a pas besoin de dire qu'on va être présent à l'événement pour se pointer.
Ils ont une page web, j'imagine?
Oui.
On va mettre le lien, nous.
Donc, ça, c'est une manière de, dans le fond, d'acquérir des connaissances. Sinon, il y a des... on appelle ça des capture the flag en ligne. Ça, c'est, dans le fond, des compétitions amicales où l'objectif, c'est de, encore là, trouver des drapeaux dans des défis, des challenges de sécurité. Donc ça, c'est une manière, dans le fond, légale d'en apprendre sur la sécurité versus
juste attaquer les gens. Parce que comment on démontre qu'on maîtrise la sécurité? c'est pas bon, c'est sûr que ton curriculum vitae peut donner des expériences de travail, mais c'est pas ce qu'il y a de plus probant là.
Mais en sécurité applicative, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut partir d'un background où on est un développeur, parce que dans le fond, pour être bon en sécurité, c'est faut aimer aller au fond des choses. Donc, c'est pas juste de savoir comment la fonctionnalité a été documentée, c'est de connaître chacun des détails du fonctionnement interne qui peuvent être mal utilisés par un développeur ou des détails d'implémentation qu'on sait que ah, telle fonctionnalité elle a peut-être été mal implémentée parce que le développeur n'a pas pensé à tel truc. Donc, les développeurs ont quand même une bonne portion de connaissances ils ont déjà une bonne connaissance en sécurité, peut-être même sans savoir. Puis, ben, c'est sûr que pour se spécialiser en sécurité, il faut aimer aller au bout des choses.
Il faut avoir l'intérêt.
Ouais. Et voilà. On peut-tu dire, peut-être que je vais me fourvoyer, mais tu vas me corriger si ça n'a pas de sens, qu'est-ce que je t'en viens de dire. Mais l'avènement de plus en plus du code ouvert, donc du code open source, ça n'amène pas aussi la capacité beaucoup plus aisément pour les gens de regarder le code source, de trouver des faiblesses pour attaquer, par exemple, des produits ou supposons, si tu as accès au code source, je sais pas, moins d'Apache, t'es capable de trouver une faiblesse dans le code source, mais là, t'as rien que besoin de dire, est-ce que ce site-là est hébergé sur Apache, tu vas pouvoir l'utiliser. C'est-tu une réalité, ça, ou je suis en train de fabuler, ou?
Ben, techniquement parlant, c'est plus facile de réviser du code que de, mettons, sa version binaire dans le cas de code C, C++. Par exemple, en pratique, la sécurité, on veut pas que ce soit basé sur des principes d'obscurité. Donc, on veut que ce soit sécure parce que la conception a été bien faite. Puis que même...
Donc, on intéresse qu'il y ait beaucoup de yeux qui regardent parce que les gens vont identifier s'il y a des lacunes puis ils vont les soulever aussi.
Oui, dans le fond, c'est qu'on peut ralentir la découverte des vulnérabilités par obscurité parce qu'on dévoile pas notre code source, parce qu'on fait tout plein de mécanismes, mais en fond, tout ce qu'on fait, c'est qu'on ralentit l'attaquant. Fait que c'est sûr, si notre attaquant qu'on vise, c'est quelqu'un qui met maximum une journée d'effort, peut-être qu'on va l'éliminer, mais si c'est quelqu'un de très motivé, on l'éliminera pas.
Donc. Très déterminé.
Et voilà.
Puis souvent, la motivation est associée avec le gain potentiel qu'on peut faire en faisant une attaque. Donc, Philippe, t'es beaucoup plus jeune que moi, donc ça fait combien d'années à peu près que t'es sur le marché du travail? 5-10 ans? Moins que ça, peut-être?
J'ai terminé en 2011, donc 6 ans.
Puis, donc, un diplôme d'ingénieur. Puis, tu t'intéresses à la plateforme Microsoft depuis dès que tu as terminé ou c'est assez nouveau? Ou?
Ah, ben en fait, là, je dis j'ai terminé en 2011, mais j'ai eu des stages à l'université au cégep avant ça. Au cégep, on avait touché à C-Sharp, VB.net, donc...
Puis les stages t'ont amené sur... Parce que souvent, sur le marché du travail, souvent, qu'ils amènent dans le monde Microsoft, mais pas que les universités sont rébarbatives, mais ils vont souvent pousser plus Java ou d'autres langages.
J'ai fait certains stages en .NET, mais la plupart des messages, en fait, j'ai terminé mon seul emploi après l'université, ça a été en Java. Puis quand je suis revenu en sécurité, ben là, c'est là qu'on apprend à être plus versatile parce que, dans le fond, les applications qu'on a utilisées sont dans tous les langages, toutes les plateformes, donc là, je suis revenu un peu plus en .NET à ce moment-là.
Pour moi, c'est du C-Sharp, Java, c'est vraiment la même racine, c'est comme deux langues presque assez similaires.
Mais en même temps, maintenant, on compare plus tant les langages, c'est plus les frameworks, dans le fond. Les gens vont pas tant utiliser C-Sharp, mais vont utiliser ASP.NET MVC, fait que c'est plus ça qui va caractériser, mettons, l'application, puis ce que tu as à connaître pour attaquer l'application.
T'as un bon point, ça veut rien dire maintenant. Tu sais, Java, C-Sharp, c'est beaucoup plus le framework, parce que c'est ça qui définit comment tu vas programmer puis tout ce que tu vas avoir à maîtriser. Puis aujourd'hui, on veut parler d'un produit open source. Est-ce que c'est toi qui es l'initiateur de ce projet-là ou tu es un contributeur?
Je suis les deux. Okay. C'est un projet, dans le fond, j'ai démarré chez GoSecure. Nous, on prévoit l'utiliser pour des mandats, mais c'est un projet libre, pour l'instant, licence LGPL. Dans le fond, qui peut être utilisé pour scanner des applications commerciales et gratuites.
Donc là, juste pour le bénéfice de nos auditeurs, ce projet open source-là s'appelle?
C'est Security Guard. Puis j'ai mis dans le nom Roslyn, juste pour différencier un des anciens modules qui étaient faits avec FXCOP.
OK. Donc, c'est Roslyn Security Guard, en anglais.
Mais pour reprendre la réponse,
ouais.
C'est Roslyn Security Guard, le nom du produit.
Je comprends traduire en français par le gardien de sécurité Roslyn. Je sais pas si ça se traduirait comme ça. De toute façon, je pense que c'est pas important. C'est pas la traduction est importante parce que le nom du produit va toujours être sa version anglaise. C'est la réalité du monde informatique. Donc, Roslyn Security Guard, qu'est-ce qui t'a amené? C'est quoi le problème que tu cherchais à résoudre ou la souffrance que tu avais pour décider de fabriquer ce produit-là?
De manière générale, en logiciel, souvent, il y a déjà plein de versions de plein de types de produits.
Mm-hmm.
Mais en analyse statique, il n'y en avait pas vraiment d'outils d'analyse statique sécurité, spécifiquement pour .NET.
Parce que le produit d'analyse statique que peut-être beaucoup de nos auditeurs connaissent ou ont connu, c'est FXCOP.
Oui.
Qui essentiellement lui fait d'analyse statique, pas forcément pour détecter des problèmes de sécurité, ce serait un peu n'importe quelle catégorie de problème, que ce soit par exemple un problème très typique. Tu utilises des strings quand tu devrais utiliser un string builder, par exemple, parce que c'est beaucoup plus performant. Donc FXCOP servait à... Et beaucoup de nos auditeurs diraient probablement, oui, c'est ça qui nous donnait comme 68 000 messages, que la première chose qu'on voulait, c'était les désactiver parce que...
Les règles, ouais, désactiver certaines règles, ouais.
Parce qu'il y a des règles que c'était, bon, surtout quand t'avais beaucoup de codes patrimoine, que t'avais pas le temps d'aller tout leur changer.
Mais en fait, c'est ça, quand j'étais voir le site sur GitHub de Roslyn Security Guard, j'étais pas au courant, là, du produit, je le connaissais pas. La première chose qui m'est venue à l'idée, c'est, oh! Ça ressemble à FXCOP, mais pour la sécurité, puis avec Roslyn.
Oui, c'est exactement ça. FXCOP, juste pour faire une petite parenthèse, il y avait quelques règles de sécurité, mais tu sais, il y avait, je pense, trois règles ou peut-être même juste deux. Donc, c'est mieux que rien, parce qu'il y avait des catégories de règles dans différents types de bugs. Mais par exemple, si tu veux avoir une bonne analyse de ton application pour voir est-ce qu'elle est sécure, c'est où les points sensibles, c'est une très faible couverture, juste trois catégories de bugs. Donc, l'idée, c'était de rehausser, dans le fond, la couverture.
Donc, si on veut faire d'analyse statique, mettons, imaginons que Roslyn n'existe pas. On va expliquer ce que c'est Roslyn, mais si on voudrait faire d'analyse statique, le principe, c'est que ça prenne une espèce de... Faut presque que tu fasses le même job qu'un compilateur, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses une analyse syntaxique du code, le comprendre, et après ça, vérifier si les règles de sécurité que tu veux vérifier sont présentes. Roslyn, ce qui va t'éviter, c'est d'avoir à construire tous ces analyseurs-là.
Tout à fait. Donc, via l'API du framework Roslyn, on a, dans le fond, une représentation du code. Donc, si vous pensez à une classe ou un fichier de code.
Donc, si on a un auditeur qui s'est dit, ouais. Il dit, Roslyn, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Donc, comment on pourrait présenter ce projet-là ou cet outil-là de Microsoft?
Roslyn, au sens large, ça a deux composants. Ça a la portion compilation. Donc, si on veut compiler du code au runtime dans notre application ou si on veut étendre le compilateur, ça, c'est un des composants. Puis l'autre composant, c'est les analyseurs, puis les outils de refactoring. Fait, donc, plus analyse de code.
Donc, puis qui est spécialisé pour le langage C-Sharp.
Et VBNet, oui.
VBNet.
Mais aussi. Pour l'instant, c'est que ces deux langages-là.
Donc, Microsoft, ils ont comme créé un ensemble des librairies, des outils qui peuvent te permettre de pouvoir aisément analyser du code et même, comme tu dis, dynamiquement à l'exécution compilée du code. Puis, et pouvoir étendre même les compilateurs actuels que Microsoft fournisse avec toute leur panoplie d'outils. Donc, toi, tu t'es appuyé là-dessus parce que ça t'évitait d'avoir à tout te retaper ce travail-là, qui est un peu fastidieux puis qui amène pas grand valeur ajoutée dans ton cas, toi.
Ouais, puis au niveau de FXCOP, c'est un produit qui date quand même de plusieurs années de Microsoft, qui est disponible gratuitement, mais qui a été fait avant que Roslyn sorte. Donc, il y a pas les mêmes capacités d'analyse, peut-être, ou la technique utilisée va être différente.
Ouais. Roslyn, comment ça a commencé, c'était vraiment, ils ont refait le compilateur, dans le fond, C-Sharp en C-Sharp. Mm-hmm. C'est un peu un principe inception, là.
Ouais.
Intéressant. Sinon, FXCOP, c'était pas basé sur un compilateur, c'était vraiment un analyseur qui se concentrait sur comment faire l'analyse de code CLR. Donc, dans le fond, la portion bytecode.
Donc, une fois que le code a été compilé, le langage intermédiaire, c'est ce qui analysait, là.
Oui.
Le fameux IL.
Ouais, OK. Tandis que, avec Roslyn, ce que tu es capable de faire, C'est différent. Là.
C'est-tu le, c'est pas les liens avec Rossine qu'on analyse?
Hein? C'est une approche différente, dans le fond, mais il va y avoir des avantages et des avantages aux deux approches. Là.
OK.
Mais il y en a un qui c'est le code source, le code Rossine, puis FXCOP, c'était la représentation plus binaire.
OK, donc avec Rossine, t'es capable d'analyser le code source directement, là, sans qu'il ait été compilé en langage intermédiaire. Ouais.
En pratique, les API sont très similaires, là, parce que FXCOP, ça s'est beau analyser du bytecode. Du bytecode .NET, c'est pas si bon niveau que ça, là. Donc, donc si les gens avaient déjà développé des règles pour FXCOP, ils vont pas être ils vont pas être égarés en regardant la documentation Rosin.
Parce qu'avec FXCOP, on pouvait, il y avait une façon d'étendre les règles, on pouvait programmer nos propres règles, puis étendre finalement le FXCOP, puis rajouter des règles.
Puis peut-être pour rajouter une différence, Roslyn, comme on se concentre sur le code source, ben, il va y avoir des petites différences, comme par exemple, on va pouvoir analyser des commentaires, si on veut trouver des trucs dans les commentaires, s'il y a du code qui a été mis en commentaire. Donc, comme on a une représentation du code source, ça, on va avoir à ce moment-là ces trucs-là. Si on veut valider les trucs de style, plus par rapport à l'indentation, là, on va y avoir accès parce que on a tous les, ce qu'ils appellent dans Rosin les trivia, toutes les white space, les, donc plus que juste le code.
Okay. Donc là, toi, tu voulais faire un outil qui te permettrait de identifier des règles de sécurité, donc, ou je devrais plutôt dire identifier des lacunes dans du code. Puis là, tu t'es dit, je vais prendre Roslyn pour me donner un analyseur. Et là, après ça, t'es venu rajouter en utilisant les API que Rosin te donne, t'es venu faire juste ce petit bout de code-là pour implanter tes règles.
Exact. Parce que moi, je veux me concentrer sur mon problème qui est trouver des vulnérabilités. Donc, la portion Lexer Parser de comprendre puis supporter tous les détails de la syntaxe C-Sharp pour toutes les versions, c'est pas mon objectif. Puis ça me prendrait beaucoup de temps juste pour en arriver à... J'ai un AST de construire un arbre syntaxique du code.
Puis essentiellement, aujourd'hui, Microsoft a publié un jeu d'API justement pour être capable de travailler avec, en disant Rosin, à travailler avec les langages C-Sharp. Mais s'il y avait quelqu'un qui ferait un peu l'équivalent pour le monde Java, avec un API sensiblement le même, t'aurais pu aussi dire, ah ben je vais analyser du code Java, ce serait possible. Ou, parce que, je trouve que ça existe pas, mais ça reste que le type d'API est toujours pas mal le même parce que c'est tout c'est le domaine de la recherche sur les ce qu'on appelle les analyseurs est très mature. Ça fait pas, c'est pas un nouveau domaine. Ça fait 40 ans que les gens font ça, des compilateurs et tout.
Oui, ben juste pour faire peut-être un parallèle, mettons avec FXCOP, en Java, ça va être FindBugs, qui est probablement le plus connu, qui est également, il va avoir une approche similaire. Là, donc, possibilité de trouver des bugs de différentes catégories.
Donc, toi, ton projet, donc t'as écrit, puis ton code que tu l'as fait en C-Sharp à ce moment-là dans ton projet open source?
On parle de Rosin, oui. Ouais. Oui, c'est le code est en C-Sharp. Pour l'instant, ça analyse seulement du code C-Sharp, mais il y a une volonté de également couvrir les projets.
Donc, tu as écrit tes règles en C-Sharp pour analyser du code C-Sharp. Donc, tu pourrais même utiliser ton produit pour analyser ton code, voici.
Tout à fait.
Mais, puis là, vous avez implémenté combien de règles à date dans votre projet?
C'est une vingtaine de règles. J'ai pas le nombre exact.
Mais, puis, serait dans quel genre de catégorie? Donc, on peut-tu les classifier un peu de cette nature-là?
Oui, dans le fond, là, c'est... Stratégiquement, j'ai commencé plus par des vulnérabilités qui s'apparentent à des injections. Donc, on pense à injection SQL, injection LDAP, ce genre de truc-là. Mais pour une même un même détecteur, des fois, il va avoir tout plein de signatures qui vont être associées. Donc, quelque chose qui va identifier une vulnérabilité d'injection SQL. Dans le fond, j'ai tout un fichier de config qui documente les API puis les paramètres injectables pour les détecter. Sinon, autre type de vulnérabilité... si on a des endpoints où on valide pas les jetons CSRF en ASP.NET MVC, ça va trouver ce genre de truc-là. Si on configure un parser XML pour on active certaines fonctionnalités qui pourraient causer des problèmes de sécurité, ben là, le développeur va activer ces fonctionnalités-là, puis l'analyseur va relever que t'es-tu conscient de l'impact d'activer ces fonctionnalités-là. Sinon, pour l'instant, il n'y a pas trop de trucs XSS, vu que ça va plus...
XSS est un cross-site scripting.
Comme les cross-site scripting, la plupart du temps, on va les retrouver plus dans les templates Razor ou autres. En ce moment, il y a des limitations pour Rosin pour l'analyse.
Donc, juste pour nous, si on a des auditeurs qui sont pas familiers avec le jargon qu'on vient de lancer là. Quand on dit cross-site scripting, de quoi on veut parler là?
Dans le fond, dans notre application MVC, il y a la portion vue qui est souvent un template HTML.
Donc, une application web un peu typique maintenant. Donc une vue qui est
qui peut être la page ASPX ou Razor CHHTML ou dépendamment du langage.
La page HTML direct. Oui.
Donc, dans cette page HTML-là, on place des placeholders qui vont inclure des valeurs dynamiques. Donc, on réfléchit des valeurs dans notre vue pour les afficher à l'usager. C'est à moins d'avoir un site statique, on va avoir tout plein de valeurs dynamiques. Mm-hmm. Puis, dans le fond, XSS, c'est quand un usager malicieux, lui, va fournir en entrée à l'application du code HTML ou du code JavaScript. Puis, l'objectif, c'est que un des usagers affiche une des pages et que ça exécute un script JavaScript, mais malicieux.
Donc essentiellement, le programmeur, lui, peut programmer, il y a des placeholders, donc lui, s'attend que ça soit, mettons, des noms de famille ou des noms de personnes qui sont mis là, puis le petit hacker ingénieux lui dit, ben moi, je mettrai pas des noms, moi, mettre du code SQL, sachant que ce code-là va se faire exécuter, puis là, à ce moment-là, il est capable de lancer des requêtes SQL sur un serveur, mettons, à distance en utilisant ces capacités-là.
Ouais, ça se peut qu'aujourd'hui, quand ils testent son nom de famille, c'est script SRC, puis là, ils pointent vers un domaine externe, tout ça dans des tags XML. Ouais.
Puis, et le programmeur, forcément, lui, a jamais pensé que quelqu'un pourrait utiliser son site de cette façon-là. Puis toi, ton produit, ce qui est intéressant, c'est qu'il va détecter ce genre de faiblesse-là pour dire, hey, problème, le code est pas assez bardé pour se protéger contre ce genre d'intrusion-là.
Pour l'instant, la couverture d'XSS est pas là parce que Rosin ne permet pas de scanner des fichiers autres que des fichiers .cs ou .vb. Donc, il y a une limitation au niveau de ce qui est fourni. Là, pour l'instant, ça prend une configuration manuelle où il faut ajouter chacun des fichiers de ressources qu'on veut faire analyser par l'outil. Fait que j'ai pas mis les efforts pour l'instant là-dessus, vu que ça nécessiterait un effort colossal à juste configurer l'outil pour en arriver au résultat. Mais ça va venir, c'est une question de temps. Il y a déjà un issue qui est ouvert depuis un an, puis il y a eu des mises à jour. Donc ça devrait venir.
Mozilla va être capable d'analyser du code ASPX, par exemple.
Ah, définitivement, oui.
Tu vas pouvoir, avec peu d'énergie, capable de bonifier.
Ce qui est intéressant, je regarde un petit peu la liste des règles. Puis au niveau sécurité, je veux dire qu'il y a des choses que j'ai aucune idée. C'est quoi là? ECB, mode is weak. Ça, c'est une règle. CBC, mode is weak. Tu détectes aussi, tu as des règles qui détectent des niveaux d'encryption qui sont dépassés, là, qui sont
en fonction. Toutes les règles que tu viens d'énumérer sont tous reliées à la cryptographie.
OK.
Puis, je dirais, c'est peut-être un des problèmes les plus communs que moi, je voyais quand je révisais des applications à .NET. Souvent, les gens vont faire un petit composant maison de crypto.
Ouais.
Puis
ils vont tomber par défaut sur le mode d'encryption qui est plus faible, mettons, ou qui est dépassé.
Mais il y a toutes sortes d'attaques possibles.
Ils vont même faire eux-mêmes leur algorithme d'encryption en pensant qu'ils sont si géniaux que ça qu'ils font un algorithme d'encryption.
On vaut moins ça. mais ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que c'est des règles que moi, au niveau d'encryption, je penserais pas à valider parce que mes connaissances en encryption sont de base là, mais avec Rosin Security Guard, je pourrais analyser mon code puis il pourrait détecter ce genre de problème là.
Ouais, tu peux au moins détecter que c'est dans ton application, puis te poser des questions, faire des recherches pour gratter un peu, puis déjà avoir plus d'informations que peut-être dans le déni, peut-être.
Mais comment ça marche? Là, j'ai mon application, j'ai mon projet, j'ai mon code source, puis là, je voudrais passer au travail. Je voudrais utiliser Rosin Security Guard.
Oui.
Comment ça se passe?
Donc, si on part vraiment de la base, c'est chercher sur Google Security Guard, Rosin. Mm-hmm. Donc, là, on tombe sur la page. Télécharger l'extension Visual Studio, qui était à l'extension .vsix.
Ouais. Donc, c'est une extension dans Visual Studio. Ouais. Parfait.
Donc, comme c'est une extension, si vous avez déjà installé Visual Studio, il devrait reconnaître l'extension, puis ouvrir un installateur où il va vous demander Donc, si on double-clique sur l'extension, ça nous demande sur quelle version de Visual Studio on veut installer les analyseurs.
Et ça supporte?
C'est Visual Studio 2015 et plus.
2015 et plus, OK.
Donc, si vous êtes sur 2013, il n'y a pas la possibilité, ils n'ont pas...
Parce que Rosin n'existait pas.
Exact. Ils n'ont pas fait de...
C'est une bonne raison.
Donc, un coup que tu as installé l'extension, donc là, elle devient visible dans ton menu Tools à ce moment-là, dans ton menu Outils?
C'est un peu indirect. Donc, les analyseurs, il y en a de définis déjà, de disponibles dans Visual Studio. Donc, le fait de l'avoir installé, ça fait maintenant partie du pool d'analyseurs qu'on peut configurer.
Même quand tu vas ouvrir un fichier, parce que où tu vas aviser la personne, oh, il y a peut-être une faiblesse de sécurité. C'est tellement quand tu ouvres le fichier .cs que...
Ben, le trigger pour rouler à Rosin, c'est soit si on reroule le build, donc juste recompiler notre projet, les analyseurs qu'on a configurés vont...
OK. Donc, dès que je compile mon code, là, toi, des analyseurs vont être lancés par Rosalind, puis je vais voir maintenant ce message d'erreur-là ou de warning-là apparaître dans ma zone de message.
Oui, dans la liste d'erreurs, il devrait y avoir un diagnostic, mais là, plutôt que ce soit juste un warning pour te dire, quand tu utilises un API déprécié, ben là, tu vas avoir également des warnings de catégorie sécurité.
Ça, c'est génial parce que t'as pas cassé la tête à chaque fois que tu codes, tu recompiles, puis oups, si t'as introduit un problème.
Ben, y a même une deuxième option plus simple, en fait. C'est qu'au même moment où on tape notre code, dès qu'on sauvegarde, Rosin va scanner le fichier en cours.
Ouais.
Donc, les règles, dans le fond, sont vraiment... L'analyse fait vraiment de manière live.
OK. Est-ce que il y a moyen d'installer ça sur un serveur de build?
Il y a des intégrations avec MS Build, mais je pourrais pas donner trop de détails parce que je l'ai pas testé moi-même.
OK.
Mais ça s'intègre avec MS Build.
OK. Puis je sais pas si ça pourrait fonctionner dans le avec Visual Studio Online qui est dans le cloud. Je sais pas si on peut mettre des extensions de ce type-là.
Essentiellement, il faut que tu rajoutes dans tes scripts de build.
Ouais.
Puis, est-ce que ton extension, on peut l'appeler à partir d'un command line, quelque chose comme ça, en disant, voici ton fichier source, puis donne-moi, ou c'est vraiment juste comme une extension Visual Studio?
Cette portion-là, je l'ai pas testée moi-même, mais ce que la documentation m'a dit, c'est que c'était intégrable dans sûrement un build, dans le fond, MS Build.
Okay.
Puis, si on a déjà un CI qui roule notre build, il y aurait moyen de faire une autre instance de ce même MS Build-là et de rouler avec certaines règles Rosin.
OK.
Fait que là, ce qui est intéressant aussi, c'est que ton projet, c'est un projet open source.
Oui.
Il est disponible sur GitHub.
Oui, c'est l'objectif. L'idée,
donc,
c'est...
Si t'as un contributeur qui est fort en intégration de MS Build puis Visual Studio Online, tout ça, qui serait prêt à donner un coup de main sur cette partie-là, vu que le projet est sur GitHub, tu acceptes les pull requests, puis...
Donc, juste de créer un tutoriel de comment le configurer, mettons, pour faire l'utilisation dans un build en continu ou...
Avis aux auditeurs, si ça vous tente.
Puis, si on prend ton produit, bon, il y en a d'autres analyseurs, un de ceux qui est assez populaire maintenant, SonarQube, que beaucoup de gens utilisent justement quand ils ont des builds automatisés, ces choses-là. Donc, votre produit, parce que j'imagine que l'équipe de SonarQube, eux autres aussi font des API, des extensions pour que les d'autres analyseurs peuvent venir s'intégrer. Donc, il n'y a rien qui empêcherait même que vous pourriez venir vous intégrer dans un Sonar à moyen long terme aussi.
Rien n'est impossible. Juste pour faire une précision, en fond, SonarQube, c'est pas un analyseur précis pour un langage. En soi, c'est une plateforme, mais qui vient avec des différents plugins, dont un C#.
Mm-hmm.
Donc, l'équipe Sonar développe eux-mêmes leur plugin C#. Et puis, en ce moment, c'est financé en partie par Microsoft. Là, ils commencent à avoir une intégration justement à MS Build, que j'ai pas testé, donc je vais pas aller trop loin là-dessus, mais à long terme, comme ils permettent déjà de rouler Rosin à partir de SonarQube, là pour l'instant c'est avec les règles un peu stock.
On pourrait rajouter tes extensions, puis à travers SonarQube, on pourrait utiliser cette plateforme-là aussi pour rouler probablement.
Parce que je suis loin d'être le seul à avoir développé des règles
de sécurité.
Ouais, des analyseurs pour Roslyn. Donc déjà, il y a des compagnies qui en ont pour des règles internes. Il y a StyleCup qui était très connu pour tous les trucs de style, mais il y a beaucoup de plugins divers qui existent. Fait que ça va être une question de temps, probablement.
Parce que si par exemple, je t'intéressais à l'utiliser dans mon entreprise, mais je veux rajouter des règles, de quelle façon je pourrais faire ça?
Donc, est-ce que tu veux te créer des règles qui vont faire de la sécurité ou c'est des règles spécifiquement pour...
Disons les deux, prenons les deux exemples. Je voudrais créer une règle de sécurité générale, puis je voudrais contribuer, mettons.
OK. Ben, c'est sûr, si tu veux faire des règles sécurité, je t'encouragerais à contribuer à mon plugin. Donc, vu que ça a un objectif communautaire, où l'idée, c'est plus on a de règles spécifiques que les gens contribuent, plus ça fait un outil qui a une bonne couverture. Donc, ça serait une option.
Donc est-ce que ma question est-ce que le produit est monolithique ou est-ce que je bâtis une DLL qui va ensuite être chargée par Security Guard?
On peut avoir autant de plugins qu'on veut, okay, qu'on charge dans Visual Studio. Donc, l'extension qu'on charge, dans le fond, Security Guard, elle contient un DLL qui inclut des analyseurs, mais on peut en charger plusieurs dans notre DLL si on veut. Si on a, par exemple, une extension sécurité, mais on a également une extension...
Et si je voudrais faire une nouvelle règle, ouais, par exemple, ouais, est-ce que je bonifie le code source de la solution au complet?
Non. Comme moi, j'ai fait aucune modification à Roslyn. Je fais vraiment un plugin qui utilise des API, okay, puis qui est de manière asynchrone, qui est chargé par Visual Studio.
Mais dans ton faut aller dans le code de ton plugin, qui est le projet open source, c'est lui qu'il faut bonifier à ce moment-là.
Mais si vous voulez créer des règles vraiment... indépendante, vous pouvez créer votre propre plugin, puis après ça, bundler votre extension.
Puis mettons qu'on voudrait pas créer des règles indépendantes, mais on voudrait justement qu'ils deviennent partie de ton projet. On prend le code source, on le modifie, puis on te fait un pull request pour dire intégrer dans ton projet.
Donc, seulement faire un fork sur GitHub, vous créez un compte, puis après ça, via les pull requests, vous pouvez demander qu'on l'intègre. Idéalement, si vous avez une idée sur une règle, vous il y a un truc que vous avez déjà vu dans des applications, une vulnérabilité, ça serait intéressant que vous créez un issue pour juste signaler que vous avez l'intérêt d'implémenter un truc, parce que si moi ou quelqu'un d'autre est déjà en train de travailler sur un truc similaire, ça se peut qu'on se pile sur les pieds,
ce qui est intéressant, parce que sur ta liste de règles, t'en as quelques-unes qui sont qui terminent par entre parenthèses futur, donc t'as déjà certaines règles qui sont planifiées.
Ça, c'est les règles, dans le fond, qui vont analyser des fichiers de config. Donc, ça, c'est les règles qui vont regarder le web.config. Mm-hmm. C'est le même truc que pour les CSS que j'ai mentionné plus tôt. En ce moment, Roslyn ne permet pas de scanner sans configuration additionnelle ces fichiers-là. Donc, okay. En ce moment, c'est des règles qui existent, mais sont un peu fantômes, à moins de manuellement ajouter à notre configuration chacun de nos web.config. Donc, ça, c'est des règles qui existent, c'est juste on attend que Roslyn ouvre la switch ou qu'il y ait la fonctionnalité qui permet de...
Le code est là, mais Roslyn, il y a une limitation présentement qui permet pas de le faire. Mais dès que ça va être réglé, ça va fonctionner. Est-ce qu'en tant que Product Owner, tu as une espèce de roadmap avec certaines règles que tu voudrais qu'elles soient implémentées dans le futur?
Oui, ben l'année dernière, l'objectif, c'était vraiment de mettre en place le Tint Analysis ou le Flow Analysis, qui était dans le fond un engin qui sert à la plupart des règles de sécurité. Donc, dans le fond, quand on fait une analyse pour détecter une injection SQL, qu'est-ce qu'on a besoin pour déterminer que c'est une injection? C'est on passe une requête SQL ou peu importe c'est quoi le type de requête que l'API reçoit. On doit s'assurer que la requête est constante. Donc, il n'y a pas un potentiel d'input qui vient de l'usager. Donc, pour faire ça, il faut qu'on fasse une exécution ou qu'on simule l'exécution de la méthode pour se rendre jusqu'à l'API pour voir c'est quoi l'état. Okay. Donc, comme quelqu'un qui réviserait le code, il va suivre les variables, il va regarder c'est quoi l'état des variables, puis si ça venait d'un état qui est sûr, il va marquer, dans le fond, c'est ce que l'engin fait. Si ça provient d'une entrée usagée, ça marque la variable teinte. Et si c'est pas le cas, ça considère la donnée sauf. Et donc, comme il y a beaucoup de règles qui bénéficient de ce mécanisme-là, j'ai préféré commencer avec ça. Puis ça fait en sorte que toutes les règles après ça qu'on ajoute, donc si j'ajoute un API, dans mon fichier de config de, pour les injections SQL, ben, automatiquement, ça bénéficie de tout ce mécanisme-là. Donc, ça okay. enlève des faux positifs. Donc, on veut pas avoir tous les endroits dans notre application où on fait des requêtes SQL, parce que ça serait beaucoup trop à réviser. On veut vraiment juste réviser celles qui sont ambiguës, puis que l'outil peut pas déterminer hors de tout doute qu'ils sont sécures ou non.
Donc là, Philippe, t'es parti ce projet-là, ça fait quoi? 18 mois? 24 mois? 12 mois?
Mon désir de faire des statistiques en .NET, ça fait peut-être un ou deux ans, mais initialement, je l'avais commencé avec FXCOP.
OK.
Puis après ça, je suis revenu à Roslyn, dans le fond, l'année dernière, quand j'en ai plus connaissance.
Ça fait 12 mois là, que le projet OpenSUSE existe.
Oui, à peu près.
Donc,
Mais le premier release a été fait en juillet pour donner une idée.
En juillet, donc ça fait ouais. 6 mois. Es-tu toujours tout seul ou t'as des contributeurs maintenant qui commencent à se joindre au projet ou?
J'ai rencontré des gens à PsecUSA, une conférence qui était à Washington l'année dernière. Puis il y a des gens de Québec potentiellement qui vont contribuer. Il y a un de leurs stagiaires qui a fait une contribution à la fin de l'année dernière.
Donc ça commence puis, là.
Ouais, il y a quelques gens de leurs développeurs qui devraient pouvoir également faire des contributions cette année.
Quand on démarre comme ça un projet open source, c'est quoi qui était ton plus grand défi ou c'est quoi qui est difficile? Tu vas peut-être ouais. me dire juste plaisir, c'est le fun, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais il y a peut-être aussi des mots un peu plus ardus.
Peut-être la portion un peu plus philosophique de la chose. Avec l'expérience, tu sais, quand on démarre des trucs en développement, souvent on a tendance à partir des trucs de zéro.
Mm-hmm.
Puis avec le temps, on s'aperçoit que ça vaut la peine de bien faire la recherche de c'est quoi les outils qui existent, c'est quoi les écosystèmes qui existent qu'on pourrait se greffer puis sauver du temps.
Comme par exemple, réutiliser l'écosystème Roslyn dans ton cas.
Exact. Puis par exemple, un des trucs déterminants qui a fait que j'ai passé de mon petit projet embryonnaire FXCOP à complètement changer à Roslyn, ça a été la portion refactoring qui avait pas du tout dans FXCOP.
Parce que si je te suis bien, ta vision, c'est pas juste de faire des statiques, mais c'est de bonifier même le projet pour qu'il devienne un outil, un assistant pour t'aider à refactoriser ton code quand t'es dans Visual Studio.
Oui, ça c'est un des
trucs. Ça pourrait devenir ça le produit là.
Oui, c'était un des trucs que j'ai vu comme prometteur. Il y a déjà des analyseurs statiques en sécurité pour .NET, mais la plupart commerciales, mais j'en ai pas vu. Qui faisait la correction automatique des vulnérabilités. Puis ça, quand j'ai vu qu'il y avait, dans le fond, la possibilité d'étendre les outils de refactoring. Donc, ça, j'ai accroché là-dessus. Ben, juste pour une référence rapide, quand vous êtes dans Visual Studio, puis vous faites un right-click sur une erreur ou un warning,
ouais.
Il y a souvent des quick actions qui sont permises. Ben là, dans le fond, ce que Roslyn permet de faire, c'est, pour des warnings ou des erreurs, d'offrir un refactoring automatique.
Donc, en plus de dire, ah, il y a un problème ici, tu pourrais même me donner le quick action pour dire, ben, veux-tu corriger ça? Puis, pouf, là, après ça, il te resterait juste, tu pourrais déjà reconstruire la bonne séquence de code, puis y avoir juste à demander à l'utilisateur de remplir les sections manquantes.
Ouais. Là, on tombe vraiment, tu sais, avec une meilleure utilisabilité parce que le développeur, il est plus en mode, je modifie le code jusqu'à temps que l'analyseur ouais. se plaigne plus. C'est tout de suite, on a potentiellement la meilleure manière de faire. C'est sûr qu'il va y avoir des cas où ça sera pas possible de proposer une solution.
Mm-hmm.
Mais quand c'est possible, pourquoi ne pas proposer le refactoring?
Donc ça, c'est une vision, en tout cas, c'est un objectif à long terme qui peut être très... C'est le fun, c'est intéressant là, comme objectif. C'est pas juste de... Pas que c'est pas noble de faire un bon analyseur puis donner les feedback.
Mais en ce moment, il y a... Il y a deux code fix providers, ça c'est la terminologie Roslyn, qui dans le fond c'est des propositions de correctifs. Donc pour l'instant ça a été fait avec des vulnérabilités plutôt simples à corriger, mais dans le fond ça permet aux développeurs de gagner du temps. Donc pour l'instant il y en a seulement deux des règles qui ont des fixes automatiques. Pour donner un exemple, les cookies, quand on crée manuellement un cookie qui est différent de celui de cookie de session qui est fourni par le framework, ben, par défaut, ils ne viendront pas avec certains flags. Donc, par mesure de sécurité, on peut ajouter le flag secure, puis HTTP only. Donc, si le développeur qui écrit son code lit la description, puis n'est pas sûr de comprendre qu'est-ce qu'il doit modifier pour corriger le problème, ben, s'il fait simplement right-cliquer sur le issue, sur le diagnostic qui est fourni, puis tout de suite, il y a un correctif qui est proposé, ben, il gagne du temps parce que il y a moins de questions à se poser, puis il est un peu plus sûr de son coup. Hein.
Ça, c'est implanté aujourd'hui, là, ça existe dans ouais. dans le projet.
Il y a deux règles qu'on a faites qui incluent ça. Donc ça, c'était pour un peu se faire la main, parce que, par exemple, il y a évidemment une petite niveau de difficulté, une petite difficulté supplémentaire à faire du refactoring, parce que quand on fait des analyseurs, on analyse l'arbre syntaxique que Rosin nous fournit. Donc, on peut penser à des nœuds récursifs qui incluent tous les nœuds du code. Là, quand on fait du refactoring, il faut réécrire, modifier cet arbre syntaxique-là pour prendre la forme qu'on veut. Donc, comme c'est du code, il faut conserver l'espacement, les tabulations, pour pas que ça génère du code illisible. Mais il y a aussi un autre élément à considérer, c'est qu'il faut que l'arbre syntaxique comme résultant, il faut qu'il soit syntaxiquement valide.
Donc, ah oui, c'est vrai.
Donc, c'est comme si on avait un texte en français, si on veut corriger une faute, puis on réécrit le texte, si on fait juste modifier le texte, puis c'est pas la grammaire n'est plus fonctionnelle. Ça va être un peu le même principe. Rosin va nous lancer une erreur pour dire c'est pas possible de modifier le modèle parce que
pas quand tu fais un quick fix que ça crée un autre message. Parce que le programmeur va dire hey, tu rigoles là.
Ouais, exact.
Puis qu'est-ce que tu as trouvé de très valorisant à faire ça? C'est-tu le plaisir de voir que hop, ça marche?
Il y a l'intérêt de l'automatisation. Mm-hmm. Comme n'importe quel développeur, quand on peut automatiser des trucs pour ne pas les répéter, c'est toujours intéressant.
On aime ça.
Moi, dans mon cas, comme je fais où je faisais des revues de code, là, dans mon cas, c'est plus exactement moi qui fais ces mandats-là, mais quand on fait des revues de code, il y a beaucoup de trucs qu'on révise constamment. Donc, les mêmes trucs qu'on va aller rechercher dans le code, puis les mêmes types d'analyse. Donc, il y en a certaines qu'on peut automatiser, d'autres non. Ben, pourquoi ne pas automatiser ceux qui sont un peu plus répétitives, redondantes? Donc, les injections SQL, il n'y a pas tant de raisons de mettre l'effort à les réviser manuellement parce que c'est un problème connu qui est possible par une intelligence artificielle, entre guillemets, à résoudre. Puis, comme ça, on peut plus se concentrer sur des vulnérabilités plus compliquées, par exemple, des bugs de logique ou des trucs qu'un analyseur statique ne sera pas en mesure de corriger, de trouver.
Un peu plus tôt, tu as parlé que tu avais commencé à faire ce projet-là en travaillant sur FXCop. Puis à un moment donné, tu as décidé de vraiment oublier FXCop et de partir sur Roselyn. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que ton produit fait toutes les mêmes fonctionnalités que FXCop offrait ou il y a des choses que vous n'étiez pas trop pas en mesure de faire?
Les quelques règles que j'avais implémentées en FXCop sont incluses dans le projet Roselyn Security Guard. Différence, par exemple, là, évidemment, il y a plus de règles dans le projet Rosin à l'heure actuelle. C'est sûr que dans l'écosystème Visual Studio 2013, ce qui était utilisable, c'était FXCop, donc c'est plus une question temporelle de... Mm-hmm. Au moment où j'ai commencé le projet, je me suis rattaché à ce qui était disponible, donc je voulais pas partir mon propre truc de zéro. Donc, FXCop était intégré, à ce moment-là, ça avait été renommé à Code Analysis ou... Ouais. Static Code Analysis. Donc, c'était la méthode qui semblait être le plus simple. En ce moment, c'est un peu sur la glace, mais il y a encore un petit avantage avec FXCop qui est le fait que, comme ça analyse du bytecode ou du CLR, la version native, ça permet de scanner plus facilement des applications qu'on peut pas recompiler. Donc, on peut penser à une application qu'on n'aurait pas le code source carrément, donc une application qu'on reçoit d'un tiers, puis qu'on veut être sûr d'un coup, qu'il n'y a pas de backdoor, il n'y a pas de vulnérabilité cachée que le fournisseur veut nous cacher. Ou, tout simplement, de mon point de vue, où je fais des révisions de code avec des clients où souvent le build est assez complexe, puis ça va prendre beaucoup d'efforts pour juste compiler le projet.
Ouais.
Ça a beaucoup d'avantages pour moi d'être en mesure de juste pouvoir recevoir une version compilée du client, puis pouvoir scanner le bytecode. Donc, ça, c'était un petit avantage.
Cet avantage-là, est-ce qu'il y a des chemins possibles pour être capable de l'enrayer ou pas de l'enrayer, mais de le solutionner avec Roselyn, ou ça sera vraiment jamais il y aura pas de solution vraiment envisageable?
Ça serait possible qu'il expose, dans le fond, le bytecode sous forme, sur la représentation de Rosin. C'est sûr que Rosin a des concepts qui s'associent pas du tout au bytecode. On parlait d'espacement, tabulation, des commentaires, il y a plusieurs nœuds dans l'arbre syntaxique qui ont pas de match un pour un avec le bytecode. Mais théoriquement, ça serait possible, tu sais, qu'ils fassent abstraction de ça, puis...
Le tu sais, un chemin, c'est il y a des produits maintenant, tu leur donnes justement un bytecode, puis ils génèrent du code VB ou du code C#, qui est un code un peu mécanique, là, il y a pas des beaux noms de variables et tout, mais à partir de ce code-là, tu pourrais pas procéder à réanalyser avec Roslyn pour au moins être en mesure de donner des hints sur voici certaines faiblesses qu'il y aurait dans ce bytecode-là.
La difficulté, c'est toujours arriver à compiler le code, parce que le code, on peut le décompiler puis générer le truc, mais là, il va avoir des dépendances, il va avoir tout plein de trucs, puis quand le code est pas compilé dans Rosin, il y a beaucoup de trucs qu'on n'a pas accès. Donc, résoudre les symboles, c'est primordial pour identifier les API. Donc, si tu fais un appel qui fait une requête HTTP, si tu as importé un namespace, donc, pour que je fasse le lien que ta classe est bien telle API, il faut que le code ait compilé pour avoir cette petite information-là.
Donc, c'est vraiment plus simple à résoudre que c'est dans la vraie vie.
En fait, c'est deux techniques différentes. Là. Ouais.
Mais j'ai comme objectif, ou du moins toujours en tête, un plan B qui est... là, en ce moment, il y a l'engin de Tint Analysis ou Flow Analysis que j'ai mis dans Roslyn, mais il y a une bonne portion des règles qui est dans le fond tout simplement des fichiers de config, où là, je documente les API, les paramètres vulnérables, dépendamment du type de vulnérabilité. Puis ça, c'est des fichiers qui pourraient être partagés à deux implémentations, dans le fond. Fait que, okay. À long terme, ce serait possible de faire une petite réimplémentation spécifique FXCop pour avoir un peu un meilleur des deux mondes où on peut réutiliser les mêmes configs.
Puis là, dans deux outils. Est-ce que Microsoft l'a mis dans un projet open source aussi, ou il est, parce que je suis qui avait été réintégré dans l'équipe Visual Studio en 2013 pour être justement code analysis, mais je sais pas c'est quoi le, qu'est-ce que Microsoft a l'intention de faire avec ce sous-ensemble du.
Je vais lancer une hypothèse, je pense que c'est encore sur la glace. Mais ça, j'ai pas de souvenir que ça a été relaissé open source.
Non, je pense pas non plus. Hein.
Tout t'en as checké vite.
Ouais. Puis non, le produit est pas open source. Hein.
Yeah. Ben écoute, fort intéressant du coup comme projet open source.
Ben oui, puis on invite des gens qui sont intéressés, qui ont déjà un penchant tout ce qui est sécurité, puis même. J'imagine que pour quelqu'un qui est intéressé à connaître ou à apprendre un petit peu comment le développement avec Rosin fonctionne, downloader le code source de Security Guard puis regarder un petit peu peut être inspirant. On peut apprendre.
Tout à fait. Donc il y a certaines règles qui vont être plus simples, donc ça peut donner des exemples pour faire nos propres règles. Donc si vous avez des cas spécifiques qui ressemblent drôlement à... Là, faut rappeler, il y a quand même une licence. Bon, je ferai pas la police avec ça, mais il y a théoriquement une licence LGPL sur le projet qui avait pour objectif de protéger les règles puis les configurations pour éviter qu'un produit commercial fasse juste les copier puis les intégrer.
Ouais.
Mais au-delà de ça, pour vous inspirer, comprendre les API, parce que dans le fond, un arbre syntaxique, quand c'est la première fois qu'on tombe sur ça pour l'analyser, on ne sait pas par où le prendre, où regarder, comprendre toute la nomenclature. Donc, c'est plus facile souvent d'aller voir un exemple, puis de s'en inspirer. Donc, autre projet aussi qui peut servir d'exemple, StyleCop, qui est un gros projet, qui est designer. Donc, ils ont beaucoup d'exemples qui peuvent servir à créer des règles. Donc, le projet est ouvert. Donc, l'objectif, c'est d'en faire un projet un peu communautaire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des idées ou un intérêt de contribuer, simplement vous signaler avant de faire des règles, par exemple, qui seraient plus que juste une règle indépendante.
Ouais, absolument.
Puis, ben, en terminant, est-ce que tu as aussi un site web, un livre, quelque chose que tu aimerais partager avec les auditeurs?
Oui, donc moi, je travaille pour GoSecure. Je fais à l'occasion des articles de recherche sur le blog. Donc, le blog, c'est gosecure.net. Ça devrait être dans les liens sur le site de Visual Studio.
Donc, c'est un bon blog à lire si on s'intéresse à la sécurité.
Oui, il y a pas juste du sécurité applicative. Le dernier mois, on montrait comment démonter un téléphone pour faire du reverse engineering, donc plus hardware.
Ah ouais.
Donc, s'il y en a que c'est plus leur corde. Donc, dépendamment des mois, c'est des articles différents. Moi, ce que je vais publier, c'est principalement tout ce qui est autour de sécurité applicative. Donc, j'ai l'intérêt de publier au courant de cette année des articles qui vont être liés à .NET. Donc, expliquer des vulnérabilités plus en détail, toujours en faisant des références à l'outil pour mentionner que ben, ces menottes-là peuvent être trouvées et, dans certains cas, corrigées. Donc, je vais probablement sélectionner certaines vulnérabilités qui sont moins connues du public, puis les documenter dans un blog futur.
Ben, merci bien.
Ben, merci bien, Philippe.
Merci pour l'invitation.
Ben oui, puis nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs et on vous revoit le mois prochain.